Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de Votre Avis, votre émission interactive sur VOA Afrique. Le sujet qui requiert votre avis ce soir, c'est celui de l'alimentation. Il y a 3 milliards de personnes qui ne peuvent se permettre d'avoir une alimentation saine, rappelle l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Dans un précédent rapport, la FAO a estimé que 720 000 à 811 millions de personnes, 720 à 811 millions de personnes ont été touchées par la faim en 2020. Arrivez-vous à manger tous les jours à votre faim au Sénégal comme dans plusieurs autres pays africains? De nombreuses familles n'arrivent plus à assurer 3 repas par jour. Quelle est la situation alimentaire dans votre pays? Comment réglez-vous la question de la nourriture au quotidien? Voilà autant de questions et bien d'autres auxquelles vous pourrez répondre tout à l'heure. Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique ou venez en direct en discuter en appelant le 001 202 205 26 33 et au téléphone un premier auditeur. Il s'agit de Ben Benoît, le Congolais. Bonsoir Ben Benoît.
Bonsoir à la VOA Afrique et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Est-ce que vous avez mangé avant de nous appeler?
Avec quels moyens?
Alors dites-nous.
Ce que je viens de dire ici est aux oreilles de tout le monde, même par les coordonnateurs de l'FAO, lui-même qui ont été dénoncé cette histoire.
Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parvient plus à manger à sa faim aujourd'hui? Ben Benoît.
Bon, la première des choses est que la politique est devenue très bizarre. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas beaucoup de politiciens dans le monde. Précisément ici en RDC, si vous vous rappelez bien. Mais on nous parlait que les gens mangeaient 3-4 fois. Il y avait même des cantines de vente dans des camps militaires, des camps des enseignants, machin, machin. Mais aujourd'hui, tout le monde est politicien. Sens de un. Il n'y a pas des agriculteurs, il n'y a pas des éleveurs, il n'y a pas de quoi que ce soit. De deux, nos politiciens que nous arrivons à élire ne savent pas c'est quoi le social. Si vous voyez les provisions budgétaires de chaque pays africain, tout comme dans le monde, beaucoup de frais, beaucoup d'argent, beaucoup de provisions budgétaires a toujours été alloué à leur propre ventre. Vous trouverez qu'un enfant de ministre qui va à l'église avec l'offrande de 1000 dollars. Mais les travailleurs simples qui cherchent même à avoir 1000 francs, ils n'en trouvent pas. De trois, si réellement cette volonté était leur vision, on allait voir la claire des choses dans tout ce qu'elles sont en train de faire. Je vous dis bien que les rapports de l'FAO, là, à 90%, ce sont les Congolais. À 90%, si vous demandez, même, ils vous diront, à 90%, ce sont les Congolais. Venez au Congo, vous allez voir. Je vous dis, même à proximité du camp Tchatchou, le président de la République qui est en train de résider, allez vérifier, vous verrez combien les gens sont en train de souffrir. Moi qui vous parle, je viens à peine de manger. Quand vous m'avez appelé, vous avez dit que j'ai même interrompu. C'est à peine. Depuis le matin jusqu'à alors, on n'avait pas quoi mettre sous la dent. On a recherché peut-être à voir où est-ce que vous pouvez ramasser 200 francs, 300 francs, se décayer pour que les enfants et moi, on arrive à manger. Et nous nous demandons, c'est quelle politique sociale que nos politiciens sont en train de faire? Vous trouverez, ils nous parlent que de la guerre, ils nous parlent de quoi, ils nous parlent de voyage et tout consort. Mais à la fin, est-ce qu'ils pensent que ceux qui nous ont élus ont leur droit? Nous, en tant que peuple, nous arrivons à appliquer notre devoir. Nous payons des taxes. Nous n'arrivons pas vraiment à faire ce qui ne semble pas leur beau. Mais et à leur tour, ils nous détruisent. Alors, et ils nous fassent des choses incroyables.
Ben Benoît, permettez.
Ils cherchent toujours à nous amener au Sheol. Oui.
Pardonnez-moi de vous interrompre, Ben Benoît. Quelques questions. Vous avez parlé des politiques et même de politiques, j'imagine, que le gouvernement doit élaborer. Qu'est-ce que vous, vous préconisez comme solution pour que tout le monde, comme à la belle époque, puisse manger 3 fois par jour et qu'il y ait de la nourriture pour tout le monde? Qu'est-ce que vous préconisez comme solution?
La première des choses, le gouvernement doit avoir un projet phare qui est l'agriculture. Parce que l'agriculture est le début de la richesse. Le début même de milliardaires. Si aujourd'hui on parle du Brésil, vous le savez bien, vous êtes là. Mais quand vous verrez, ici, il n'y a que beaucoup de budget à l'Assemblée, beaucoup de budget au Sénat, beaucoup de budget à la présidence. Mais sur le plan social, l'agriculture d'abord c'est zéro. Si vous demandez au ministre de l'Agriculture, on ne le connaît même pas, on ne connaît même pas son nom. Le ministre de l'Agriculture nationale, on ne connaît même pas son nom. On ne sait pas quel est son plan, qu'est-ce qu'il arrive à faire. Ça, de un. Vous arrivez aux petits cultivateurs, ils n'ont jamais été même financés en aucun camp. Il y a des ONG internationaux qui arrivent à donner peut-être des miettes, mais il n'y a pas de suivi du gouvernement pour qu'on arrive vraiment à faire l'effort de former les agriculteurs et de les amener à comprendre c'est quoi et la quintessence de l'agriculture. Et ça nous fait du mal. Ce que moi je préconise, c'est que le gouvernement doit d'abord occuper et allouer beaucoup de budget au niveau de l'agriculture et former les agriculteurs, s'occuper des ONG des agricultures pour que nous puissions vraiment voir la vraie des choses et en plus voir leur budget à 50% qu'on arrive à louer au social. Et les 50%, là, ils peuvent même faire ce qu'ils veulent. Mais ici, on arrive à louer 10% pour le social de la population. Bon, et même commence même à détourner. Voilà un peu ce qui arrive à tuer les sociales ou à des fois les alimentations du peuple. Et si on parle par exemple de Domini aujourd'hui, venez en RDC. Si vous voulez, je vous envoie même des images, vous allez voir combien les gens sont en train de souffrir. Ici, on n'a plus encore besoin d'acheter des choses, de mettre dans des sacs, mettre dans des histoires, amener peut-être je ne sais pas où, ou des marquettes. Non, on tient en main. Le fait de patates douces, on tient en main pour qu'on arrive à montrer à tout le monde, voilà ce que nous allons manger aujourd'hui.
Voilà.
Ça coûte, ça pèse combien de kilos et que ça va contribuer à la santé des êtres humains que nous sommes. Moi, personnellement, je dis, c'est mieux d'être prisonnier aux États-Unis que d'être libre ici au Congo.
Voilà. Merci beaucoup, Ben Benoît, pour cette contribution. On va prendre un autre auditeur au téléphone. Il s'agit d'Eric Tiasuma Kanumwambidi, qui aborde un peu dans le sens de Ben Benoît tout à l'heure. Eric, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dites que la question de l'alimentation est un casse-tête pour beaucoup de familles sur le continent. Et pour vous, il est question de moyens financiers et surtout de l'augmentation des prix des denrées alimentaires, en fait. C'est ça la cause.
Oui, effectivement, c'est ça, parce que dans la plupart des pays africains, nous dépendons surtout de l'importation. Donc, on ne produit presque pas, et c'est aussi ça le problème auquel nous faisons face. Et souvent aussi, les gens n'ont pas vraiment assez de moyens. Et lorsque je suis ce que Ben Benoît dit par rapport à la République démocratique du Congo, qui est aussi mon pays, et bien, que dire du Zimbabwe, un pays qui est voisin de l'Afrique du Sud, parce que là-bas, c'est pire. Je peux dire par rapport à la République démocratique du Congo, parce que tout est importé de l'Afrique du Sud. Et là-bas, je pense que vous vous rappelez de la situation qu'ils avaient subie dans les années 2000 avec la réforme agraire, dont la plupart des fermiers ont quitté le Zimbabwe pour partir dans d'autres pays. Je pense que d'autres sont venus en Afrique du Sud et d'autres sont partis dans d'autres continents ou dans d'autres pays. Et aujourd'hui, le Zimbabwe, par exemple, fait face à la crise alimentaire très sévère.
Voilà. Eric, vous parlez justement d'importation. Dans beaucoup de pays africains, prenons le simple cas du riz. Il y a des gens, oui. Il y a des pays qui produisent localement, mais ce riz, parfois, il est plus cher même que celui importé. Et du coup, les gens s'abattent sur le riz chinois, le riz thaïlandais. Qu'est-ce que vous dites à propos?
Non, le problème à ce niveau-là, ça se situe pas. Et vous savez, si par exemple il y a compétition au niveau du marché, même si vous produisez localement, il y a aussi l'importation, il y aura compétition au niveau du marché et le vendeur seront obligés de rabattre leur prix. Le problème est que n'y a pas une politique de quoi commerciale au niveau national. Voilà pourquoi nous faisons face à certaines augmentations des prix ou exagérations. S'il y a par exemple compétition au niveau national, il y a l'importation, la production locale, je pense que le prix sera abordable pour tout le monde et surtout si aussi que les gens ont aussi le moyen qu'il faut pour acheter. Parce que si vous n'avez pas le moyen ou vous n'êtes pas un salarié ou commerçant, donc comment est-ce que vous allez vous acheter ces histoires en produits? C'est aussi un problème.
Parlant de politique nationale dans beaucoup de pays africains, est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être réduire les importations afin d'encourager la production locale, ou il faudrait imposer un certain prix pour les denrées de première nécessité? Dans certains pays, le coût du pain simplement est très élevé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis?
Je pense qu'il faudra encourager la production locale. Ceux qui ont des moyens, d'autres commerçants qui estiment qu'ils doivent importer, ils peuvent aussi le faire parce que avec la compétition, nous pouvons maintenir le prix des denrées alimentaires à un prix abordable pour tout le monde. Parce que si par exemple il y a le monopole de par exemple de la vente à une catégorie de personnes, il sera difficile de contrôler ces prix-là. Même le gouvernement ne saura pas vraiment imposer à ces gens-là de maintenir un prix, tel prix ou tel prix. Mais lorsqu'il y a compétition au niveau du marché, donc il y a trop de production, les vendeurs seront obligés de rabattre leurs prix.
Alors, Eric, peut-être une dernière question pour vous. Le chômage, c'est un fléau dans beaucoup de pays africains. De plus en plus de jeunes essayent tant bien que mal de se lancer dans l'agriculture, mais ils sont pas très nombreux. Que faire pour encourager les jeunes à faire de l'agriculture plutôt que de rêver à être ministre ou homme d'affaires sans moyens?
Bon, sur cette question-là, on ne peut pas forcer à quelqu'un d'être agriculteur ou se lancer dans un métier, par exemple, qui ne s'intéresse pas. Il doit avoir d'abord la volonté. Il s'est dit, non, par exemple, moi, je veux être agriculteur ou faire l'élevage. S'il n'a pas cette vocation-là, comment vous pouvez l'imposer?
Et comment avoir cette vocation, alors?
Non, d'abord, la personne doit avoir de lui-même la volonté de se dire que je dois, par exemple, m'organiser dans tel secteur, commencer, par exemple, à faire l'élevage ou, par exemple, vendre ceci ou cela.
Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour votre contribution. Espérons que vous avez mangé ce soir ou que vous aurez un repas demain. On va partir au Standard prendre Moussi Karim. Moussi, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs.
On vous écoute sur la question de l'alimentation.
Effectivement, à mon avis, c'est une autre forme de la communication que nous subissons. Avoir actuellement le gouvernement, la majorité des gouvernements des pays africains, veulent financer la justice des produits à exporter, à l'instar du coton, du soja et d'autres produits. Pourtant, avoir l'agriculture vivrière, c'est ce qui nourrit la population. Le maïs, le haricot, tout ça là est négligé et derrière. Alors nous allons dire à notre population, à notre président, d'aider la population au moins à maximiser, d'encourager la population à beaucoup faire l'agriculture des résistances, bien des idées, tout va nourrir la population. Par exemple, nous allons voir au niveau des salaires. Un agent de sécurité qui est allumé, qui prend 35 000 francs. Et dans ce cas-là, il doit payer le loyer. Il doit manger, les déplacements, tout ça là. Donc, avec une famille à la fille. Donc, je vois que tout ça là, ça crée un peu de problèmes. Il faut aussi voir le niveau du salaire.
Alors, donc, pour vous, Moussi Karim, la question se pose plutôt au niveau des moyens dont disposent les populations pour pouvoir se procurer de la nourriture et non au niveau de l'absence même ou de la rareté de la nourriture.
La population, c'est le gouvernement qui doit employer la population en les extrayant des petits produits pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie et leur mieux faire le temps.
Merci pour cette contribution, Moussa Karim. On va partir en Côte d'Ivoire, il me semble, où Pascal Kwame nous attend au bout de téléphone. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la VOA.
Alors, j'ai lu votre commentaire et vous dites que vous avez une pensée pour ces élèves qui, après les cours, ont du mal à se nourrir. Et Dieu seul sait que nous sommes tous passés par là et que quand tu rentres des classes, tu as faim. Ce dont tu veux faire sur le coup, c'est manger. Mais vous dites ce n'est plus facile aujourd'hui.
Oh oui, je l'ai dit parce que j'ai dit un peu que j'ai vécu ça un peu. Puisque les parents étant au village pour avoir de la nourriture, souvent il faut aller convoyer, tout ça, c'était un peu compliqué. Mais j'ai projeté mon cas aux autres élèves qui seraient dans certains états comme le Mali, excusez-moi pour citer ces états-là, le Mali, le Niger, le Tchad, les pays sahéliens, où on voit certaines réalités, les gens ont du mal à se nourrir. Tout dernièrement, on a vu Madagascar. Bon, je me mets à la place des élèves qui vont assister à l'école, venir, et puis bon, vraiment, il n'y a rien à manger. Quand ils viennent, et que certaines personnes, en effet, qui viennent de chercher en voiture pour aller manger, tout ça, et puis bon, nous êtes malheureusement pauvres, entre guillemets, c'est vraiment pas facile.
Et autre chose, oui, allez-y.
Concernant la pauvreté, même la nourriture, tout ça, je pense que ce n'est pas la nourriture même qui manque totalement sur la planète Terre. Mais il y a une répartition qui est malheureusement mal faite. C'est qu'il y a certaines personnes qui gâchent alors que d'autres en manquent. Bon, dans ce cas-là, je souhaite que les États et la FAO se penchent sur ce cas-là en essayant de sensibiliser certaines personnes et puis mobiliser des fonds, pas forcément sur le fond de la FAO, mais essayer de voir les plus riches de la planète. De cotiser aussi pour pouvoir acheter. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des régions dans lesquelles vous pouvez aller acheter la nourriture que vous voulez seulement. Les gens même en produisent, mais ça pourrit dans les mains. Il n'y a pas de gens pour acheter. Ça pourrit dans les mains. Il y a beaucoup de régions vers le sud ici, en Côte d'Ivoire ici, où les gens produisent les denrées alimentaires qui pourrissent dans les mains. Pourtant, il y a certaines personnes qui meurent de faim ailleurs, juste parce qu'il n'y a pas les moyens pour acheter ou convoyer cela vers ces personnes-là. Donc, je souhaite que la FAO. Les États vraiment pensent, les ministères de l'agriculture de tous les États se pensent de ce côté-là.
Sur cette question.
Il y a certaines personnes,
Pascal,
qui sont vraiment courageuses, mais malheureusement n'ont pas les moyens, qui malheureusement viennent là-bas faire ce cadeau-là, ils ne peuvent pas chez eux, qui meurent de faim.
Pascal Kwame, voilà, pour mettre un peu de vin dans vos propos, dans certains États ici aux États-Unis, il est arrivé que des chaînes de magasins jette de la nourriture qui n'a pas pu se vendre au cours d'une journée. Et il me semble qu'à New York, par exemple, l'État a imposé que des ONG ou des organisations puissent récupérer ces denrées-là et puissent les distribuer aux pauvres. Donc, ce qui se fait ici peut se faire là-bas. Évidemment, il y en a qui jettent aussi beaucoup de nourriture.
Je pense que c'est vraiment bien fait. Ils doivent faire plus que ça encore. Essayer de voir vraiment, excusez-moi, pour certains pays africains, d'autres pays vers le Moyen-Orient. Vraiment, quand je vois les gens mourir de faim, et puis il y a des animaux qui sont gâchés ailleurs, ça me fait un peu mal. Je ne sais pas s'il n'y a pas une bonne organisation mondiale qui pourrait s'occuper de tout cela, toutes les denrées qui sont gâchées, tous les amitiés qui sont vers la date de péremption, tout ça, on ne peut pas essayer de voir pour les acheter, donner ça aux autres qui meurent de faim parce qu'ils ne peuvent pas chez eux. Ce n'est pas eux qui ont choisi d'être dans ces lieux-là. La nature les a imposé. Bon, vraiment, il faudrait qu'on aide toutes ces personnes.
Et donc, vous faites appel, vous dites qu'il faut sensibiliser les riches et les bonnes volontés à donner un peu de leur argent pour aider les zones touchées par la faim. C'est bien cela? C'est cela. Voilà. Merci Pascal Kouamé pour votre contribution. Donc, on va prendre Diallo Tierno, Omar Diallo. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et à tous de VOA Afrique.
Est-ce que vous, vous avez pu manger ce soir ou aujourd'hui?
C'est temps à autre, donc on a mangé, mais c'est pas comme les autres. Je pense que ce sujet est vraiment pertinent et aussi désolant et regrettable parce que c'est quand on a faim qu'on sait que oui, ceux qui souffrent de la faim souffrent réellement. Mais je trouve ça dans deux angles parce que c'est différent. Il y a certains qui vivent dans le CCRS ou bien je trouve que leur pays vit en guerre. Il y a d'autres aussi, c'est de la paresse tout simplement parce que nulle part au monde, tu ne peux pas manger à 100% sans avoir travaillé. C'est là le problème dans certains pays, que ce soit le cas de la Guinée ou beaucoup d'autres pays, là où il n'y a pas de CCRS et autres, cela se demande du courage et du travail, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Si vous prenez l'exemple de certains villages ici en Guinée, il y a des terres où on peut travailler. Et pendant la saison pluie, vous pouvez récolter et même revendre ça pour avoir d'autres choses. Mais les gens ne le font pas, ils croisent les bras et ils s'assoient. Ils attendent que ceux qui vivent dans les villes pour les envoyer quoi manger. Je pense que c'est triste. C'est aussi qui se trouvent dans les grandes villes attendent que ceux qui se trouvent à l'Occident pour les assister. Alors que quand ils travaillent ici aussi, très bien, ils peuvent ne pas être un homme riche. Mais ce que tu vas manger, ça, quand même, tu l'auras. Franchement, ce qui fait qu'il faut prendre ça dans ces deux angles. Il y a certains pays, si on prend les Soudan, les Érythrée, dans certains pays, là où il y a la sécheresse, on ne peut pas cultiver, l'eau ne vient pas. Je pense que les hommes riches doivent envoyer, comment dirais-je, un peu de richesse dans ce pays. Ou bien voilà. Les pays qu'on prend, les pays qui sont en guerre,
justement,
la Libye, la Syrie, etc.,
alors,
pour les assister. Mais dire que c'est faire les mêmes personnes dans ces mêmes lots, c'est ce qui n'est pas du tout normal à mon avis.
Tierno Diallo, gardez l'écoute. Je vais reprendre Eric pour une question. Eric, on parle de manger aujourd'hui, Eric. Vous êtes toujours là avec nous, je pense.
Oui.
Voilà, on parle aujourd'hui de manger, mais le débat semble différent dans les pays développés et sur le continent. Dans beaucoup de pays développés, les gens s'intéressent maintenant à la qualité des aliments qu'on mange. Parce que vous avez certainement entendu parler de fast-food et toutes ces nourritures qui sont faites à base d'engrais. Mais sur le continent, il y a de la qualité en termes de produits, j'ai envie de dire, qui sortent des terres. Mais il manque seulement de moyens. Votre point de vue sur ces deux concepts?
Oui, les gens, vous savez aussi, le produit, quand on parle de la qualité, ça coûte aussi. La qualité, c'est-à-dire, ça se vend aussi à un prix élevé.
Tout à fait.
Donc, ça dépend aussi des moyens que vous avez. Et par exemple, le cas de l'Afrique du Sud, je vois ça aussi, je peux observer ça ici dans le milieu sud-africain. Donc, et ça dépend de vos moyens et je pense que tout le monde n'a pas le même moyen pour acheter les histoires de qualité. Voilà pourquoi vous allez trouver dans notre pays première qualité, deuxième qualité, troisième qualité.
Voilà. Diallo, un mot là-dessus, la qualité, la quantité?
Non, je pense que ça aussi, ça dépend. La qualité, dans certains zones, donc c'est déplorable parce que même si vous avez les moyens dans les grandes villes, vous ne pouvez pas avoir ce qui est vraiment de qualité parce qu'il y a de se manger ici, que ce soit si on prend les fouilles et autres, c'est des choses qui ont été vraiment transportées à des milliers de kilomètres ou à centaines de kilomètres. Donc, quand vous l'acceptez, et puis ce n'est pas ce que vous souhaitez avoir. Donc c'est différent de ceux qui vivent dans les jeunes,
voilà,
dans les autres. Et moi, ceux qui viennent directement du front, c'est vraiment un goût différent de ce qu'on mange dans les grandes villes.
Malheureusement, on va débarrasser la table. C'est la fin de cette émission produite par Cheikh Thiero. John Lyndon était à la présentation. Merci d'avoir suivi. On vous retrouve pour nos prochaines éditions. Et tout à l'heure, les infos. Bonsoir.